Alors, est-ce que l'Asie sera ou est en avance en fait sur le véhicule autonome? Donc, premièrement, vous voyez que je lis les deux sujets de véhicule électrique et véhicule autonome, puisque tout ça, c'est ce qui va mettre en dynamique en fait un milieu qui est le même depuis 150 ans, en vrai, depuis 100 ans en tout cas. Donc, le véhicule électrique en Chine, c'est fait. C'est-à-dire, ils ont fait quelques projections. Ils ont un tiers aujourd'hui de la mobilité, ils ont un tiers, pardon, de possession automobile comparé aux États-Unis. Ils ont la moitié comparé à l'Europe. Ils ont fait quelques tableaux Excel. Ils ont dit qu'on ne peut pas y arriver. Ça ne va pas marcher. On ne peut pas accepter que les gens se déplacent chacun avec un Q5, comme vous voyez quand vous allez en Chine. C'est juste dingue. Donc, on ne peut pas accepter ça. Donc, et comme c'est un pays en fait qui a encore un pouvoir extrêmement fort, ils ont interdit tout simplement un certain nombre de véhicules. Par exemple, vous n'avez plus de deux roues thermiques. Si vous allez au Vietnam, vous êtes envahi, ou en Inde, vous êtes envahi par les mobylettes, les scooters, les trucs comme ça. Là-bas, il n'y a que des deux roues électriques. Donc ça, il ne faut pas oublier, c'est de la mobilité, ça déplace des gens, et c'est le premier marché du véhicule électrique, c'est la Chine, à cause des deux roues électriques. Ils sont en train de passer à l'électrique pour les bus, à vitesse grand V, ils sont en train de passer à l'électrique pour les voitures aussi, et de limiter strictement le nombre de voitures. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que du coup, ils sont en train de tordre le marché. C'est-à-dire, ils ont une telle demande sur les 90 millions de véhicules que du coup, tous les constructeurs automobiles sont en train de s'adapter à ce marché-là en faisant de l'électrique. S'ils font de l'électrique, il y a une souplesse, en fait, une plasticité du véhicule qui est beaucoup plus forte, qui va permettre de faire des véhicules en kit, comme vous avez des ordinateurs en kit, pas celui-là, ou des téléphones. Et du coup, le prémisse du changement, il va partir de là. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Donc, sur le véhicule autonome, ça partira sans aucun doute de Chine pour cette raison-là, c'est-à-dire parce que ça aurait été les premiers à prendre la main sur les constructeurs automobiles. Et pour une deuxième raison, c'est que eux, quand ils vont faire une quatre voies sur laquelle il y aura des véhicules autonomes, il n'y aura pas de cyclistes qui vont traverser. Parce que le cycliste, il aura la peine de mort s'il traverse la route. C'est-à-dire, ils ont une capacité à faire respecter les règles qui n'est pas parfaite, hein. Il y a énormément de morts sur la route en Chine, hein. Je ne suis pas en train d'inventer des choses, mais ils ont une capacité à faire respecter les règles qui est beaucoup plus forte que chez nous. Et sans doute, alors j'ai lu des horreurs sur le fait que eux, ça ne leur posera pas de problème qu'il y ait des morts, c'est complètement faux. Je veux dire, un mort a exactement le même prix ici qu'en Chine. En revanche, ils auront la capacité de faire respecter des voies réservées, des routes réservées aux véhicules autonomes, sans doute beaucoup plus fortes que chez nous. Et donc, du coup, une acceptabilité, en fait, pour les débuts, on a vu que c'est les débuts qui sont difficiles, qui sera plus forte. Donc oui, c'est en Chine que ça va se passer. Et comme c'est le marché quantitatif le plus important, c'est eux qui vont sans doute changer tout le marché automobile, de tout ce qui roule, automobile, camion, livraison, drone, pour le monde entier. C'est de là-bas que ça va partir. Donc oui, ça va changer. Il y a un scénario, en fait, un peu cauchemardesque, où nous, l'Europe, on va recycler les véhicules dont la Chine ne voudra pas. C'est-à-dire, en gros, pensez aux BlackBerry. Moi, j'étais dans une boîte où on récupérait les BlackBerry des autres boîtes parce que personne n'en voulait, le téléphone BlackBerry. J'ai été aussi dans une entreprise où on refourguait, pardon pour l'expression, les vieux bus et les vieux autocars en Afrique. On va être sans doute l'Europe, le dernier pays où on aura le droit, et la France, où on aura le droit de rouler en diesel. Donc, on va malheureusement récupérer. Ils sont peut-être neufs, hein. Ce sera peut-être des gammes, mais ils feront des gammes pour nous, en fait. Donc nous, on sera sans doute les derniers pays qui auront des véhicules polluants et non autonomes. C'est un scénario. Moi, j'aime bien les dystopies aussi, hein. On a tendance à toujours penser que c'est mieux. Ça peut être moins bien aussi. On peut être dans ce scénario-là. Et clairement, là, pour le coup, la Chine et un certain nombre d'autres États-nations qui contrôlent bien leur infrastructure, comme Singapour, Dubaï, etc., ce sera les premiers à avoir ça. Et ils vont tordre le marché. Et nous, du coup, on aura l'envers du marché. C'est-à-dire les véhicules qu'on n'arrive plus à refourguer, quoi. Je suis pessimiste, non? Ça va?
Pardon, je me permets de réagir. C'est plus que les questions, parce que si on va aujourd'hui à Copenhague ou en Finlande, les règles sont extrêmement respectées. Hein, c'est-à-dire que tu ne traverses pas quand le petit bonhomme est rouge, même quand c'est la nuit et qu'il n'y a personne. Et quand tu le fais, on te dit, oh là là, t'es française. La révolution du vélo, elle a lieu. La révolution électrique, elle a lieu. Alors, c'est des plus petites échelles, mais il y a quand même des choses qui ont impulsé. Et les Chinois sont venus voir ce qui se passait là-bas.
Absolument. Non, non, en termes d'usage, nous, on envoie toujours les startups de la mobilité là-haut. Allez voir là-bas, la France, il y a 1% de voitures électriques. Allez directement en Norvège, ils achètent quasiment tous les véhicules neufs maintenant. Donc en termes d'usage, oui. En termes de marché, donner une ordre de grandeur, les bus de Shenzhen, en fait, chaque semaine, ils commandent en nombre de véhicules... tous les mois, pardon, ils commandent en nombre de véhicules électriques le nombre de véhicules de l'ensemble de la région parisienne, c'est-à-dire l'ensemble de la RATP. Donc, ils ne pèsent pas assez lourd en termes de marché, mais en termes d'usage, oui. En termes d'usage, oui, c'est clair. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, dans la mobilité, on est sur un marché mondial. Encore une fois, c'est des milliers de milliards. C'est plus nous qui allons faire ce marché-là. Nous, on va pouvoir résister en disant « pas chez moi, pas de véhicule autonome chez moi, parce que c'est dangereux, pas de véhicule électrique chez moi ». On ne va pas pouvoir l'impulser. Ce n'est pas nous qui allons dire aux constructeurs automobiles, à Google « regardez, chez moi, il y a un supermarché, venez chez moi le faire ». Enfin, on va le dire, mais ça ne va pas se passer. C'est pas comme ça. Et ce n'est pas les États-Unis non plus. Ça, c'est important. Les États-Unis, vous allez avoir... En gros, en termes d'innovation dans les mobilités, on est un peu au XIIIe siècle. Vous savez, les villes-État, Bruges, Venise, etc., ça va se passer comme ça. Et quand vous regardez, les villes elles-mêmes vont se rebeller contre leurs États. Les villes vont dire, chez moi, je veux, mon modèle, c'est Copenhague. Et puis dès que vous allez sortir, ça va être le Moyen-Âge, pardon... au sens où on va continuer à conduire nos voitures, elles vont polluer parce qu'on n'a pas les moyens, parce que ça coûte cher, et on va être obligé de se déplacer individuellement parce que les Uber et compagnie qui ont des super systèmes pour faire que vous partagez votre trajet, ils ne vont pas s'intéresser, vous n'aurez jamais les vélos électriques, etc. Donc c'est vers ça qu'on va. C'est pas uniforme la mobilité, ça fonctionne par petits hubs en fait. Donc il y aura des villes dans lesquelles il va se passer des choses, et dès qu'on va en sortir, il y aura... Alors nous, on est vieux, pardon, ça ne nous changera pas la vie. Pour les enfants, ça va leur faire bizarre. Parce que si vous êtes né dans une ville, vous allez être comme, j'allais dire son prénom, comme ma copine, vous n'allez pas passer votre permis, vous n'allez même pas savoir que ça existe à la rigueur. C'est pas votre problème. Moi, j'ai pas passé un permis pour apprendre. Les enfants, ils n'ont pas passé, ils n'ont pas été formés pour taper sur le clavier. C'est-à-dire que c'est quelque chose c'est naturel comme ça, ils tapent mieux sur le clavier qu'ils écrivent. En revanche, nous, on a connu ça. Donc ça va être une vraie rupture. Il faut que je réponde plus vite à vos questions. Celle-ci, donc la vraie vision politique n'est-elle pas d'envisager la fin de la voiture individuelle? Ça dépend où. C'est difficile de répondre là, mais ça dépend vraiment où. Il y a plein d'endroits où la voiture individuelle, il n'y a pas plus efficace en fait pour se déplacer. Moi, je ne suis pas ni pro ni contre voiture. Je pense que la voiture, c'est... La voiture, en fait, elle en est au stade où était l'ordinateur dans les années 90. C'est-à-dire, vous aviez un ordinateur, quand vous aviez les moyens, il ramait, et tout ce qui rentrait, qui sortait dedans, il fallait un objet, et donc il y avait énormément de pertes. Certains étaient saturés, d'autres étaient complètement vides, on ne mutualisait rien. La mobilité, c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire, dehors, vous avez des tonnes de ferraille qui ne bougent pas, de la valeur immobilisée, si on parle en économie, qui ne bouge pas. L'idée, en fait, des géants du web... c'est de faire pour la mobilité ce qu'ils ont fait pour les PC. C'est-à-dire le PC, il peut être statutaire, identitaire, vous avez une pomme dessus, mais sinon, c'est juste une boîte qui vous permet de vous connecter. Elle vaut le moins cher possible parce que la valeur, elle est dans le cloud, elle est dans les services qui sont posés dans le cloud, quelque part, dormez, jeunes gens, ne vous préoccupez pas aussi. Ils veulent faire la même chose pour la mobilité. C'est-à-dire, si on le voit avec nos yeux de voitures individuelles, collectives, privées, publiques, on est à côté de la plaque. Ce qu'ils veulent, c'est que vous allez avoir une sorte de clé qui va vous connecter à un système et vous ne vous préoccuperez pas, vous aurez une offre de siège, parce qu'on va essayer de voyager assis quand même, ça pourrait être un progrès, j'en ai pas parlé aussi, mais le premier qui propose de voyager assis, à mon avis, il gagne. Il est assis à 100%. Donc, j'ai jamais vu un taxi qui vous faisait voyager debout. En revanche, je ne sais toujours pas, quand j'achète mon billet, si je vais voyager debout, entassé ou assis. Anecdote. Donc, voiture individuelle, peut-être, peut-être pas. Encore une fois, ça va vraiment dépendre des endroits. Moi, je vois vraiment un scénario au XIIIe siècle. Je veux dire, un endroit où il y a des bibliothèques, des théâtres, des poètes, etc. Et puis le Moyen-Âge à côté. Pardon, le Moyen-Âge, c'est ce qu'on vit aujourd'hui en termes de mobilité. Donc, il y aura des endroits où ce ne sera pas comme ça et d'autres endroits où on sera condamné à conduire. Ce sera terrible. Il faudra trouver des conducteurs. On prendra des gens et dire « Maintenant, toi, tu vas conduire. »
Dans les territoires où il n'y a pas de solution aujourd'hui, où il n'y a aucune alternative à la voiture individuelle, que les incitations à développer ces
c'est le développement de mobilité. Je ne sais pas si c'est un des développements du monde, et en tous les cas, ça peut passer par du véhicule électrique.
On n'entend pas du tout la question.
Ouais. Votre question, c'est en fait, c'est est-ce qu'au contraire, le véhicule autonome, ce n'est pas une solution là où on n'a pas de solution de transport public ? Oui, c'est naturellement, c'est ce vers quoi on va. On se dit, bah non, on se débrouille. Mais il y a toujours des lois physiques. Je veux dire, si moi, je me suis occupé des autocars ici. C'est-à-dire, l'autocar, quand vous examinez la demande d'affectation scolaire pour ne pas être sur l'établissement scolaire sur lequel on est affecté, qu'est-ce que vous regardez ? Vous ne regardez pas la tête de la personne et son niveau scolaire. Vous regardez comment est-ce qu'on va chez elle. C'est-à-dire, il y a des notions... Si vous avez un hameau là, un hameau là, un hameau là, un hameau là, et un ravin entre les deux, à un moment donné, vous avez les règles physiques qui font que, et c'est très simple, discutez avec les gens du... Bon, en tout cas, vous avez des règles physiques qui font que, en gros, même un véhicule autonome, il ne va pas rouler à 500 km/h sur des petites routes. Il ne va pas, pour monter, descendre d'un véhicule il y a un certain temps, il faut qu'il s'annonce, il faut qu'il respecte des horaires. Et donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas dire au gamin qui est au bout de la ligne qu'il va voyager plus de, je crois que c'était 50 minutes hein, ici dans le département. Donc, ce sera la même chose avec un véhicule autonome. Le véhicule autonome ne règle en rien les problèmes physiques de la mobilité. Vous êtes toujours obligé de vous tortiller pour aller prendre une ou deux personnes. Ça ne règle pas les problèmes de la densité. Et puis, quand il arrive en ville, eh ben, si vous avez un bouchon de voiture autonome par rapport à un bouchon de voiture pas autonome, c'est exactement la même chose. Et on ne règle pas le problème. Donc on va...
Ça règle quand même le problème économique que vous soulignez.
Oui, ça va... Bah, ce problème économique, effectivement, alors les coûts vont quand même exister parce que du coup, on va faire plus de kilomètres, donc on va quand même être sur des distances, on va cramer de la batterie. Je disais qu'il y avait un problème de batterie, en fait, là-dessus. On va consommer, mais... Le coût, on va baisser le coût, et du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va peut-être générer de la mobilité. Et on va avoir un effet rebond, ce qu'on appelle un effet rebond en économie, donc peut-être que du coup, tout le monde va aller s'installer en périphérie, parce que c'est moins cher, le temps que ça se rattrape, etc. Peut-être que... Personnellement, j'ai du mal à aller aussi loin, en fait, dans la rupture. C'est-à-dire, effectivement, moi, j'ai fait des tas de brainstorming l'année dernière, c'était vraiment à la mode, on faisait des tas de brainstorming sur c'est quoi la campagne si on ne paye plus le transport ? C'était ça, en fait. Et donc, effectivement, tout le monde venait s'y installer et puis on travaillait. Vous savez, il y a des salons roulants, on faisait des réunions dans les véhicules, c'était magique, etc. Et là, dans ces cas-là, je me dis juste, mais pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui ? D'ailleurs, aujourd'hui, grosso modo, un conducteur, on peut en trouver, les conducteurs Uber, ils acceptent de payer pour 5-10 euros, de travailler pour 5-10 euros de l'heure. C'est quelque chose de faisable. C'est-à-dire, il y a déjà plein de moyens aujourd'hui de transporter les gens pour moins cher, mais on ne le fait pas aujourd'hui. C'est-à-dire, le fait de supprimer le coût du conducteur, c'est une certaine baisse du coût, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Les vrais problèmes de mobilité, ils sont liés à la massification. C'est-à-dire, est-ce que je peux mettre plusieurs personnes dans le même véhicule ? Est-ce que je peux faire des trajets qui sont plus courts ? Et jusqu'où ne pas aller ? Donc ça, pour moi, je ne vois pas comment on va changer ça radicalement, simplement en supprimant le conducteur. C'est-à-dire, c'est votre navette, une fois qu'elle est à Rennes, elle n'est pas à GFZ, il faut qu'elle revienne à GFZ à un moment donné. Et donc on peut dire qu'on va en mettre des centaines sur la route, c'est peut-être ça le scénario, d'une sorte de, comme je disais tout à l'heure, on va remplacer le téléphérique par des œufs et on a plus de 2 minutes. Personnellement, j'y crois pas, parce qu'il y aura toujours un coût qui est lié au véhicule et un coût de circulation qui sera élevé plus loin vous allez. Hein, donc sur le papier, oui, sur le papier, c'est magique. Si on prend l'email ou le Skype, ou etc., ça s'est passé, c'est-à-dire la technologie a permis de réduire presque à zéro, la Terre est plate. Moi, j'étais à Montréal la semaine dernière, c'est pas pour me la péter, j'ai bossé avec des gens à 12h30, j'avais des rendez-vous, j'étais 6h30 dans ma chambre d'hôtel, les gens ne savaient pas où j'étais, hein. Je veux dire, c'est pas un problème. Donc ça, on peut dire ça a marché, c'est pas pour ça que je vais me balader à Montréal toutes les semaines et que c'est devenu agréable et que oui, je peux travailler dans l'avion, oui, mais en gros, pour moi, on va pas s'affranchir comme ça des questions physiques parce qu'on a enlevé 30 ou 40% du coût du véhicule. Je vous vois sceptique.
Moi, j'ai une question physique. La limite des ressources naturelles, pétrole, minerais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive à une limitation et à des effondrements possibles qui font qu'on va penser aussi du low-tech.
Voilà, c'est toute la pensée d'Elon Musk. Hein. Là, je vous invite, alors si vous lisez en anglais, il y a une série d'articles qui est assez remarquable, qui allait vraiment au fond de le monde selon Elon Musk, c'est-à-dire pas que ce qu'on en voit dans les médias et son côté marketing. En gros, Musk, il dit que oui, il n'y a pas d'autre équation possible que l'équation solaire, hein, pour répondre à votre question. Et donc, du coup, il faut investir massivement pour faire des panneaux solaires et toute la chaîne et l'individualisation et la décentralisation du système qui permet de le faire à un coût acceptable pour l'environnement, c'est-à-dire pas en pompant les matériaux, en chauffant la silice, etc., etc. Donc ça, il dit, voilà, mettons l'argent là-dessus pour innover, c'est à notre portée. Lui, il dit que c'est à notre portée, donc de faire un système basé sur le solaire, décentralisé, dans lequel les véhicules, en fait, sont des batteries roulantes. C'est-à-dire le véhicule sera partie lui-même intégrante du système d'électricité. Ça veut dire qu'en gros, s'il y a un match au Roazhon Park, chez nous, avec le Stade Rennais l'année prochaine contre Chelsea, eh bien, nos voitures électriques qui ne servent pas le soir, elles iront au stade pour servir de batterie d'appoint. Donc ça, c'est le monde tel qu'il le voit, où finalement, c'est un monde de batteries, voilà, pour être concret, c'est un monde de batteries qui sont produites de manière respectueuse de l'environnement. C'est pas fait, mais honnêtement, on a plus de chances, d'après ce que je comprends, d'avoir des batteries respectueuses de l'environnement que d'avoir des véhicules 100% autonomes, là, les 8% qui manquent. Donc il dit que c'est à notre portée. Et puis, alors pour l'anecdote, si jamais ça marche pas, eh ben, il est en train de faire le nécessaire pour qu'on puisse aller s'expatrier sur Mars, sans possibilité de retour, parce que quand même, l'effondrement, ça fait partie des choses auxquelles il croit aussi. Donc oui, ce système-là, de toute façon, si on génère... En gros, il y a deux grands scénarios. Il y a un scénario, ce que j'appelle le scénario de l'email. C'est-à-dire ça va devenir tellement facile de se déplacer qu'on va avoir... moi, j'ai 21 400 emails qui m'attendent dans ma boîte. Je n'ai pas 21 400 courriers. Hein, ça se verrait, je serais Gaston Lagaffe. Donc il y a effectivement une vraie génération artificielle de ce qu'ils appellent « ghost driver », en fait, c'est... Il y a un vrai risque, en fait, que si on facilite la mobilité, il y a des voitures partout. Donc c'est le paradoxe, on se passera exactement le contraire de ce qu'on imaginait, parce que d'un point de vue économique, il vaudra mieux qu'elle tourne, etc. Comme l'email aujourd'hui, ce serait bien que je pense à le supprimer, mais en fait, je m'en fous, c'est transparent pour moi. Et il y a un autre scénario, qui est un scénario autobus, j'ai vu que les gens posaient la question, c'est-à-dire, la mobilité individuelle était une parenthèse, nous ne pouvons plus nous permettre de la maintenir, c'est pas possible. On ne peut pas maintenir la mobilité individuelle, c'est trop coûteux. On ne peut pas laisser les gens se déplacer comme ils veulent. Donc on va maîtriser tout ça, on va leur dire comment se déplacer. En fait, on va leur mettre un niveau de service. Donc ça, c'est un scénario que je vois bien pour les villes. Hein, c'est-à-dire la mobilité individuelle, elle va descendre d'un cran. Elle sera limitée au vélo, à la marche à pied et à certains modes actifs. Et sinon, tout le reste, en fait, ce sera des modes guidés, assistés, planifiés, on va dire, avec des systèmes plus ou moins élaborés. Ce ne sera pas forcément des bus, hein. Il faut savoir que dans les ordinateurs d'Uber, c'est des sièges qui bougent, hein. C'est pas des voitures ou des bus. Donc pour eux, et je me tue à l'expliquer aux opérateurs de transport, pour eux, demain, ils font de l'aérien, c'est exactement le même job. C'est juste que dans le programme, on dit que les sièges sont tous dans le même sens. À un moment donné, il y a 412 sièges dans un Boeing 777. Et pour eux, c'est exactement la même machine qui marie l'offre et la demande. C'est la même chose. C'est dans notre tête, encore une fois, qu'on dit qu'il y a l'aérien, le routier qui dépend du département, celui qui dépend de la région, celui qui dépend d'intercommunalité. Pour eux, c'est une offre de siège, c'est des coordonnées Lambert, hein, X, Y, Z, ça va d'un point à un autre, et on fait des modèles mathématiques pour dire, tiens, on a remarqué que, grosso modo, 90% des gens se déplacent de la même façon 80% des fois, donc vaut mieux la mettre à tel endroit pour qu'elle soit plus près. Enfin, je ne sais pas si je suis clair, mais... Imaginez que derrière tout ça, l'arrivée du numérique dans la mobilité, c'est l'arrivée des mathématiques dans la mobilité. Ce sont des mathématiciens. C'est des gens qui raisonnent d'abord comme des mathématiciens. Ils font des modèles. Ils estiment qu'il y a une donnée. On ne peut travailler qu'avec des données. Et pour nous, la mobilité, c'est de la politique. À tous les niveaux, c'est de la politique. Et ça va jusqu'à individuellement. J'ai le choix de ma mobilité. Moi, je me déplace à vélo. Je suis fier. Je filme mes déplacements, etc. Non, pour eux, c'est des mathématiques. Évidemment, des mathématiques avec du marketing. Ils ont bien compris que mathématiquement, vous réagissez mieux à la couleur bleue et vous cliquez sur le truc. Mais ça reste des mathématiciens, c'est-à-dire ils ont une vision totalement agnostique, totalement plane, en fait, de la mobilité. C'est une offre de siège qui va d'un point A à un point B à un moment donné. Et pour eux, c'est une équation. Quand le fondateur de Uber a trouvé son cofondateur, ce qui a attiré le cofondateur qui venait dans le domaine, il faisait de la vidéo, il n'avait rien à voir, c'est super, c'est un mathématicien, il a dit super, j'ai enfin pouvoir faire des maths. Hein, c'est ça qu'il s'est dit, il ne s'est pas dit je vais, les taxis ça suffit et puis il y a trop de pollution, il s'est dit chouette, on est capable de géolocaliser des téléphones qui se déplacent, il y a un super problème de maths, c'est ça qui m'excite. Google, le Googlos, c'est un nombre. C'est des mathématiciens. Les gens qui s'occupent de ces problèmes-là, c'est des gens qui font des mathématiques. C'est pas une critique, hein, c'est juste, faut juste intégrer ça. Ils n'ont pas tous nos biais, enfin ils les ont, mais à titre individuel, mais quand ils travaillent, pour eux, c'est les rapproches de l'offre et de la demande.
Comment expliquez-vous la lenteur du développement du débit électrique alors que la technologie est déjà tombée?
On attaque les énergéticiens là ou pas? Moi je suis chaud. Hein. Non mais la France est vraiment à part sur l'électricité. La France est vraiment complètement à part, c'est hyper difficile. Je sais pas, il y a des Rennais ici, vous aviez vu, comment il s'appelait l'Américain qui était venu à Vivacité là. Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin, il y a eu une question sur le nucléaire, il a dit je ne réponds pas quoi. Et le nucléaire, c'est 2% de l'énergie mondiale, ça ne m'intéresse pas, plus personne ne veut de centrales nucléaires. Donc en France, on est un peu à part, on a un sujet. Moi, j'aborde le sujet différemment, je suis loin d'être un spécialiste, parce que généralement, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui me demande sur l'hydrogène. Il n'y a personne qui va me demander sur l'hydrogène. Il y a l'hydrogène et la blockchain, c'est les deux questions pièges, en fait. Là aussi, dans la manière de fonctionner des gens du web, hein, ils vont toujours privilégier les solutions décentralisées par rapport aux solutions centralisées. C'est-à-dire des nœuds décentralisés, résilients. Vous cassez un nœud, ça continue à fonctionner. Ça, c'est le principe de la cybernétique. Ils ont été élevés là-dedans. Ils ont grandi depuis l'âge de 12 ans à faire des systèmes comme ça. L'électricité, c'est le contraire. L'énergie même. Hein, regardez, peut-être la semaine prochaine, on va bloquer, je ne sais pas qui va bloquer les terminaux à Verne-sur-Sèche ici. On fera la queue et on sera mort. L'économie s'arrêtera. Donc, les énergéticiens, la clé, c'est la centralisation. Hein, c'est la centralisation même géopolitique, c'est-à-dire on veut maîtriser les points d'approvisionnement hier en Irak, etc. Les informaticiens, je caricature, hein, je suis consultant. Donc eux, c'est la décentralisation. C'est-à-dire ils vont toujours essayer de privilégier des solutions où vous produisez votre propre énergie et vous consommez votre propre énergie. Et nous, on vous aide à la mettre en commun. Hein, donc pourquoi l'électricité se développe pas aujourd'hui? Moi j'ai dit heureusement que l'électricité ne se développe pas aujourd'hui parce qu'elle le serait mal, elle le serait de manière centralisée et on arriverait à des questions du genre « Ah mais monsieur Schulz, si tout le monde se branche le soir sans véhicule électrique, ça va faire péter le réseau, est-ce qu'il va falloir construire des centrales nucléaires ?» La réponse est oui. C'est pour ça que coller le système actuel sur le système actuel des véhicules électriques, ça sera juste une catastrophe, donc ça ne se fera pas. Parce que même malgré tout l'argent qu'ils ont, ils n'arrivent pas à les construire, les centrales nucléaires ne marchent pas. Donc c'est forcément, là aussi, une autre révolution qui rapprochera le point de production du point de consommation, parce que là aussi, il y a des principes physiques qui font que vous perdez énormément quand vous rallongez, on ne sait pas stocker, donc il y a des questions de batterie. Et moi, j'espère, il y aura aussi des questions de frugalité, c'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans un système où c'est on-off, enfin c'est plutôt on, on ne sait pas l'éteindre, et donc il faut consommer cette électricité. Et on arrivera dans des systèmes qui seront beaucoup plus frugaux, j'espère, qui seront des systèmes, en gros, plus sur un rythme quotidien, bi-quotidien, etc. C'est-à-dire, je charge, je consomme immédiatement. Là aussi, c'est une révolution. Ça ne se passera pas avec les acteurs actuels. C'est clair. Vous ne pouvez pas, ils n'ont pas appris. Même problème dans l'agriculture. Hein. On ne leur a pas appris à faire. Vous ne pouvez pas désapprendre. Et ça fonctionne très bien aujourd'hui. Et on peut se féliciter d'avoir ce système aujourd'hui. Donc, l'équation énergétique du véhicule électrique qui remplace le véhicule thermique, ça ne marche pas avec le système actuel. Ça nécessitera forcément de refondre complètement le système. Et là aussi, ça ne viendra sans doute pas en France et sans doute pas en Europe en premier. Ça viendra d'ailleurs. Et nous, on sera sans doute on aura des systèmes dont les autres ne veulent plus. Moi, c'est le scénario vers lequel on se distingue. On se dirige, pardon. Alors, la Chine, moi je ne suis pas spécialiste de l'énergie, la Chine elle a un avantage énorme sur nous, c'est qu'elle a beaucoup de charbon. Donc la Chine, elle n'a pas fini de cramer son charbon, il faut savoir. Elle a une énorme ressource en charbon, en fait, c'est pas très cher le charbon. Donc la Chine, en fait, son problème aujourd'hui, c'est de décarboner le charbon. C'est-à-dire, elle va utiliser du charbon encore pendant longtemps. Enfin, moi j'ai un pote qui est géologue, il m'a dit, non mais Stéphane, ils vont utiliser leur charbon. Je veux dire, ils n'ont aucune raison de ne pas le faire, nous on a bien utilisé le pétrole des autres, hein, avec tout ce qu'on connaît. Donc ils vont utiliser leur charbon, qu'ils vont essayer de décarboner, c'est-à-dire à la source, d'être capable de le nettoyer à la source de façon à ce qu'il ne pollue pas, et après on rangera bien sagement notre carbone, on essaiera de le recycler, etc. Je ne suis pas énergéticien, mais c'est vers ça qu'on se dirige, c'est-à-dire dans un premier temps, ils vont passer à l'électricité de façon à limiter la pollution locale, mais ils ne vont pas passer au solaire comme ça. Alors ils y bossent, hein, ils font beaucoup de choses, ils vont encore pendant longtemps utiliser leur avantage stratégique. C'est-à-dire, à l'ère des hydrocarbures, ils étaient dépendants des autres. Donc maintenant, ils ne vont plus être dépendants des autres. Ils sont, ils ont dépensé 7 fois l'équivalent du plan Marshall à l'étranger, les Chinois. C'est-à-dire qu'ils ont acheté, ils sont en train de mettre la main, c'est comme au Monopoly, hein, ils sont en train de mettre la main sur des ressources clés partout dans le monde. Dans les ressources clés, il y a des ressources matérielles, il y a des ressources primaires. Il y a des ressources secondaires. Le port de New York, il appartient aux Chinois. Alors nous, il y a un aéroport, mais bon, ça a raté. Mais ils sont en train de racheter en fait un certain nombre de ressources clés. C'est comme ça, ils ont la même stratégie que les Américains avaient après-guerre, hein, le pas de miracle. Donc là-dessus, moi, ce que je comprends, sans être spécialiste, c'est qu'ils vont passer à l'électricité parce que sinon, ils crèvent. C'est-à-dire, s'ils continuent à émettre et s'ils suivent leur courbe de population et de développement, ils meurent. Mais littéralement, hein, là aussi, c'est un laboratoire. Quand vous avez un coup de smog, il meurt vraiment. Hein. Je veux dire, c'est pas des années de vie en moins, hein. C'est il meurt. Donc, ils veulent pas ça. En revanche, sur la partie production, ça va être beaucoup plus long. Ils misent beaucoup sur le solaire, pas trop sur le nucléaire, et ils vont cramer leur charbon, ce qui va sans doute nous aider. Non, mais ça va sans doute nous aider à innover sur la captation du carbone. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire, peut-être qu'on profitera aussi de ça. Je rappelle qu'on a du charbon en Europe. Hein. L'énergie, c'est super bizarre. Hein. Je veux dire, on a du charbon en Europe, il est là. Hein.
Il y a une autre question à la profiter sur la technique de recherche sur des batteries standardisées et interchangeables comme les piles de jouets.
Oui, il y a eu ce qu'on appelle le swap de batteries avec des technos vachement impressionnantes, ça fait des super films et tout. Pour moi, c'est un peu le fusil à tirer dans les coins. Hein. Je veux dire, on va plutôt vers un monde où la batterie n'existe plus. Hein. Vous avez ça ou pas? Vous avez essayé d'enlever la batterie? Vous ne pouvez pas. Donc la batterie, pour moi, c'est un peu comme les réservoirs d'essence de l'automobile. Vous avez déjà vu un réservoir dans une voiture? En fait, le réservoir, il occupe toute la place de la carrosserie. C'est pas une poche, il se met un peu partout. Les avions, c'est encore mieux. Hein. Donc moi, j'imagine plutôt une batterie qu'on ne verra plus, en fait, qui sera totalement intégrée, peut-être même aux composants, en fait, mais encore une fois, je suis pas spécialiste, mais je vois plus ça que des systèmes amovibles, mécaniques. Comme ça, a priori, moi, tout ce qui nécessite de la mécanique, ça va casser. On va plutôt vers des systèmes qui ressemblent plus à des organes, en fait, très organiques, où il n'y a plus de mécanique. Avec l'induction il y aura même plus de prise, en fait, pour les recharger, etc. Donc je vois plus, en fait, des systèmes comme ça. Mais là, il faut vraiment inviter quelqu'un qui est spécialiste, parce que je suis loin de mes bases.
Alors là, il y a une série de questions sur les usages du véhicule autonome. Donc, peut-être qu'on peut en grouper deux, trois. Premier cas d'usage généralisé du véhicule autonome, les trajets autoroutiers, point d'interrogation. Autre question, véhicule autonome, solution à la disparition des petites lignes de train en zone rurale, sur voie propre. Et puis après, il y a une question sur le transport par drone.
Le drone, c'est super intéressant parce qu'effectivement, on a une dimension qu'on n'utilise pas aujourd'hui. On en a deux, en fait. On a le sous-sol, on l'utilise très peu. Enfin, on l'a beaucoup utilisé, mais on ne l'utilise pas trop. Donc là, il y a un zozo qui a envie de creuser, de faire des tunnels. Bon. Et l'aérien, on l'utilise très mal. Moi, j'aime bien, je suis fan de cartographie, j'adore les cartes, les images aériennes et tout. Vous avez quand même toute cette surface là-haut, là. Qui n'est pas utilisé. Je veux dire, on a quand même envie de se dire, quand on voit la bagarre qu'il y a au niveau du rez-de-chaussée, dans une autre vie, j'ai fait des projets d'aménagement. Alors là, je vais mettre les vélos, là, les handicapés, les pompiers, là, je vais mettre les pompiers. Bon, au-dessus, il y a de la place. Donc je me dis, c'est quand même hyper tentant de se dire qu'on utilise finalement la cinquième face en fait, du bâtiment pour desservir. C'est vachement tentant. Je veux dire, le drone en tant que tel, là aussi, ça va être banalisé. C'est-à-dire, on va avoir des systèmes fiables qui vont être capables d'aller d'un point à un autre. On est prudent. Hein, pensez aux morts, à la dame qui s'est fait écraser, et à notre mort de Biotrial. Donc, on ne va pas prendre le risque qu'un drone tombe sur des gens. Donc, on fera sans doute des couloirs de drones. Mais c'est plus simple de faire, par exemple, au-dessus des lignes électriques. Je ne sais pas, hein, j'invente. on fera sans doute des couloirs, mais oui, c'est fort probable, compte tenu de l'amélioration de la technologie, qu'on soit capable d'avoir des drones. Ils seront autonomes ou pilotés en remote ou pilotés en essaim. Il y a des trucs très jolis aujourd'hui, on sait les piloter en essaim. Et je pense qu'on a intérêt à réfléchir sur nos 5e ou 6e étages, hein, qui deviendront peut-être des bases logistiques, voire pourquoi pas des bases de transport, même si je suis vieux, ouais, donc je suis plus sceptique sur le fait que les gens vont monter dans un truc qu'ils ne maîtrisent pas. En tout cas, sur les marchandises, c'est clair, ça peut libérer de la place, et normalement au niveau du sol, de livrer par les étages, quoi, avec l'ascenseur derrière.
Et sur les lignes de train en zone rurale,
ouais, moi, la zone rurale, alors le train en tant que moyen de transport avec un rayon de courbure de 12 km et une pente de 10%, oui. C'est sûr, c'est hyper intéressant d'avoir ça. Je ne sais pas si vous faites Quimper-Brest en train, c'est chaud, hein, moi je ne me sens pas bien, ça tombe beaucoup. Donc on voit le train en tant que mode de transport confortable qui peut aller vite et en confort, oui. Donc là il y a un vrai sujet. Mais sinon, le train, pour l'amour du train, j'ai un fils qui est dingue de train, donc il ne m'écoute pas. Non. Donc en gros, des véhicules autonomes sur des voies ferrées, ça existe déjà. Il s'avère qu'il y a un conducteur, mais c'est vraiment pour corriger les bugs et c'est déjà extrêmement automatisé et ça sera de plus en plus. Est-ce que ça va résoudre les problèmes de la massification du fait qu'on allait construire à 30 km de la gare, qu'on met des centres commerciaux, des routes, etc. en concurrent? Non. Donc on aura le même problème en fait. C'est-à-dire on peut améliorer le train, on doit l'améliorer parce que c'est un super mode de transport. Ben on sera sur la route, mais sur la route, ça serpente, ça monte, ça descend, on n'aura pas le niveau de confort du train. Utiliser les voies de train, donc désarmer une voie de train pour la transformer en route, en fait, c'est ça? Ouais, bien sûr. Enfin, c'est créer de nouvelles routes. Est-ce qu'on aura des routes, en fait, pour les véhicules autonomes? C'est ça votre question, peut-être? Ouais, alors je sais pas si vous avez déjà fait beaucoup de projets urbains, mais dès qu'il y a le mot RFF, SNCF et tout, le projet il prend 10 ans. Hein. Ils sont pas là, si vous êtes là. Bonjour. Non mais c'est vrai, vous n'êtes pas l'acteur avec lequel c'est plus facile de bosser. Faites déjà des trucs sur les routes départementales et les routes nationales. Il y a moyen de gérer. Alors je vais digresser, pardon. Aujourd'hui, la route, c'est quelque chose de complètement con. L'interface de la route, c'est vous. C'est votre capacité à comprendre la signalisation, à la respecter, si possible, et à vous entendre plus ou moins mal en tant qu'individu. C'est-à-dire, il y en a un qui freine, je vais freiner. Et c'est ça qui crée les bouchons. Il y a un énorme potentiel de numérisation de la route, déjà. Comme les chemins de fer ont numérisé le trafic ferroviaire, et ça marche super bien. Regardez le nombre de trains qui passent sur une LGV, c'est remarquable. Ou dans le RER à Paris. Ou le métro à Rennes, 77 secondes. Donc, améliorons déjà la manière dont les routes sont gérées pour, par exemple, à certaines heures, pouvoir rajouter une voie ou enlever, ne plus être... Les routes, aujourd'hui, elles ont 150 ans dans leur mode de fonctionnement. Et en gros, il faut voir les panneaux. C'est une route à sens unique, elle est à sens unique tout le temps. Donc, mettons déjà de la signalisation dynamique, équipons les voitures de système. Et commençons déjà à rendre la route plus intelligente, pas au sens du marketing de Bouygues, mais au sens vraiment intelligent, parce qu'elle est très con aujourd'hui, la route. Après, on verra comment on peut désarmer une voie SNCF. C'est quand même génial, un train. Moi, je veux dire, le mode de transport train, c'est un mode génial. Mettre un autocar à la place sur une voie de train, je ne vois pas ce que ça pourrait apporter, même s'il est autonome. Enfin, faisons des trains autonomes, peut-être, mais...
Ceci dit, il y a une vraie question de mathématicien. Alors dans le projet de municipalité, il y a un accord sur le tram, qui était quelque chose qu'on a porté, de faire une espèce de RER rennais en utilisant justement toutes les voies et de sortir de déplacements que en étoile pour aller sur des choses circulaires. Et alors, l'étude prend je ne sais pas combien de temps et on se dit, on a envie justement de mettre les mecs d'Uber dessus en disant, tiens, il y a des voies et il y a des choses à faire. Parce qu'il y a un côté extrêmement frustrant dans toutes ces voies qui pourraient être utilisées. C'est pas que RFF le problème, c'est aussi la façon dont on envisage.
C'est vrai, mais il y a de la physique. Hein. Je veux dire, un train, ça pèse quoi, 100 tonnes. Enfin, moment donné, il y a des règles physiques qui font que vous ne pouvez pas... la vitesse d'un train, il faut qu'il s'arrête, il faut qu'il démarre, il faut qu'il tamponne avec un autre train, il faut qu'il se croise, c'est extrêmement complexe. Je suis pas sûr, là, pour le coup, qu'Uber fasse beaucoup mieux. Peut-être qu'on peut gagner, 20-30%. Ça va pas être la révolution qu'on peut imaginer dans d'autres secteurs, en fait, sur des... sur le plancher des vaches. Je déçois, mais... sinon, j'ai envie de dire, ils auraient déjà commencé à s'en occuper. Donc ça va arriver. Par contre, je pense que, pas sur l'aspect forcément exploitation, sur l'exploitation, il y a sûrement à gagner un petit peu. C'est-à-dire qu'on peut faire rouler sans doute plus de trains sur une voie, mais ça ne sera pas radicalement différent. C'est déjà extrêmement automatisé, et encore une fois, à Rennes, on arrive à avoir un transport tous les 77 secondes, ça va être difficile de descendre en dessous. En revanche, le progrès, il sera sans doute dans la manière de vendre, de commercialiser, de n'informer les gens, de faire que... Aujourd'hui, il y a plein de rigidités, en fait, dans tous les systèmes de transport, dans le train comme dans d'autres. Et cela, moi, je suis très impatient de voir ce que d'autres acteurs vont faire, parce que, à mon avis, on va aller... En gros, l'horizon vers lequel on va, c'est l'horizon de l'aérien. Quand vous prenez un avion, vous savez pas forcément dans quelle compagnie vous êtes, vous savez encore moins dans quel avion vous êtes, et vous en avez, mais rien n'affiche. Enfin, moi, je suis passionné d'avion, donc je vais aller regarder ce que c'est comme modèle... Je vais discuter avec les mecs et tout. La plupart des gens, dans quel avion vous avez volé, aucune idée, quoi. Donc, on va vers ça. C'est-à-dire, on va vers une banalisation, encore une fois, du mode de transport. On va avoir le Opodo, une espèce de grand portail. On va lui dire, je veux aller là, et il va vous mettre dans un train, il va vous mettre dans un avion, il va vous mettre dans un Uber, peu importe. Enfin, dans un taxi, pardon, d'Apsus. Peu importe. C'est-à-dire, ça ne sera pas le sujet. Donc là, je vois beaucoup d'innovation et d'amélioration de ce côté-là. C'est-à-dire, dans une meilleure utilisation des différents modes de transport, donc un meilleur remplissage des trains, donc une meilleure utilisation des voies, que, encore une fois, dans le hoverboard, enfin, un mode de transport magique qui va régler des problèmes physiques, qui restent des problèmes... si je vous fais tous courir d'un mur à l'autre trois fois, vous allez vite comprendre le problème physique du transport, c'est-à-dire vous pouvez pas courir trop vite, vous pouvez pas freiner trop vite, vous allez vous foncer dedans. J'aurais dû le faire, ça aurait été marrant.
Alors, vous parliez de la signalisation, tout ça là, il y a deux questions là, qui portent sur la lecture de la route par le véhicule autonome, grâce à ses radars, lidar, caméras, etc. Comment la signalisation va devoir s'adapter, rôle de la ligne blanche, panneau, feu tricolore, et puis, question subsidiaire, quid de l'harmonisation de la signalisation au niveau européen ou au niveau international?
Oui, juste pour compléter, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi par rapport aux agents de sécurité, par exemple? C'est une question que je me pose.
Aux agents de sécurité?
Aux policiers, par exemple. Qu'est-ce qui va faire que le véhicule reconnaît un vrai policier d'un faux policier demain? Est-ce qu'il y aura une problématique là-dessus?
Non, mais aujourd'hui, c'est très drôle. J'avais plein d'images, mais ça dure déjà une heure. Mais il y a des véhicules qui mettent comme publicité, ils mettent des... Par exemple, c'est un maçon, il avait mis sur l'arrière de son véhicule, il a mis une échelle avec un maçon dessus qui est en train de monter l'échelle. Mais en fait, ça pose d'énormes problèmes aux véhicules autonomes parce qu'ils voient un piéton et ils s'arrêtent du coup. Il y a un piéton devant moi et il est vachement bien dessiné. En gros, on va dire, il y a en France, et c'est le cas quand même de beaucoup de pays du monde, vous discutez avec des experts en automobile, en voirie, ils vous disent « Waymo, c'est n'importe quoi, ils n'y arriveront jamais, on n'y arrivera jamais si on n'équipe pas la voirie ». Au sens si on n'équipe pas de capteurs et donc si on n'adapte pas en fait la voirie. Alors c'est pas forcément les panneaux, c'est le signalisation, c'est ce qu'on va trouver dans le train, hein. C'est-à-dire on va avoir des protocoles en fait qui vont discuter, le véhicule va discuter avec l'infrastructure, il va discuter avec d'autres véhicules ou en passant par l'infrastructure ou pas, et donc concrètement les spécialistes disent ils n'arriveront pas à autonomiser le conducteur. Mais on peut arriver à autonomiser le véhicule. Bonjour, un petit chat. On arrivera à autonomiser le véhicule avec des systèmes en fait qui ressemblent au système ferroviaire d'ailleurs. Moi, je suis pour les animaux dans le monde du travail. En fait, ça relaxe tout le monde. Donc, on y arrivera. Et là se pose la question de qui va payer. En fait, qui va payer déjà, là, le passage à 80, ça coûte une fortune. Hein. Juste de changer des pauvres panneaux en métal, c'est une horreur. Le fonctionnement d'un feu, c'est 3 000 euros par an, hein, je crois. Hein. Le fonctionnement juste d'un feu. Donc, il faut imaginer, si vous commencez à avoir derrière de la data, qui dit data, dit de la donnée, pardon, qui dit données, dit opérateur de télécom. Il n'y en a pas ici. Opérateur de télécom, ça coûte. Ça veut dire qu'on va être sur du frais de fonctionnement. On ne va plus être que sur de l'investissement. Donc j'imagine déjà les collectivités qui vont avoir mal à la tête, on va faire des appels d'offres, etc. Voilà, donc ça va être extrêmement complexe. Donc ça, ils te disent souvent ça. Donc hier soir, il y avait Vinci qui inaugurait l'espace Léonard de la Smart City pour dire en gros, Vinci, ils sont à fond là-dedans, évidemment. Relais de croissance. Vous voulez plus construire de route, vous voulez plus construire d'aéroport, aucun problème, on va numériser la route. Mais voilà, donc on va avoir en gros, on a un couple constructeur, gestionnaire d'infrastructure, vendeur d'infrastructure, d'équipement d'un côté, avec leur match contre les informaticiens, on va les appeler, qui eux disent, vous inquiétez pas, on va gérer, on va se démerder. Moi, le souvenir que j'ai, c'est qu'à un moment donné, on a mis du Wi-Fi, il y a une borne, on a mis des câbles, on a mis des antennes 3G, 4G. Il y a un moment donné, on a mis de l'infrastructure quand même. Le téléphone purement peer-to-peer, ça n'existe pas. Donc j'ai tendance à dire qu'on va sans doute passer par là. Et encore une fois, c'est sans doute pour ça qu'on ne va pas y arriver. Partout, tout le temps. Donc oui, pour la voie de gauche Rennes-Nantes, dans 10 ans, ça j'y crois. Je le souhaite même. C'est-à-dire, en gros, ça va doubler, ça va nous donner la voie ferrée qu'on n'a pas eue, hein, entre Rennes-Nantes, voilà, celle qu'on n'a pas eue. Donc on va la faire sur des routes, ça prendra une place à la voiture, tant mieux. Mais par contre, je ne vois pas la ville de Rennes sortir d'un chapeau 20 milliards pour permettre à, au début 10, puis 100, puis 1000, puis 10 000 véhicules autonomes circuler. Enfin, je suis contribuable à Rennes, donc je ne suis pas sûr que je serais d'accord avec ça. Donc.
Il y a deux questions économiques. C'est la dernière. Il
faut peut-être que vous fassiez une pause après, non ? Je vous sens un peu décliné. Moi, je peux tenir toute la journée.
Je croyais qu'on allait jusqu'à 30 et on prend un 45 et on s'arrête après. 11h15 ?
Je crois qu'ils sont fatigués, là.
D'accord, ça.
C'est beau.
C'est moi qui vous prends, désolé. Ah, zut. Alors, non, parce qu'il y avait une super question. Je les lis toutes, puis vous choisirez à laquelle vous voulez répondre. Là, une remarque, hein, on ne supprimera pas le coût du transport, mais son prix pour l'usager. Ah non, je passe. Je lis les cas.
Il y aura des investissements à amortir, bon, je répète comme ça. Qu'à un moment donné, il y a des gens qui devront gagner de l'argent pour pouvoir payer tout ça, ça c'est certain. Hein. Pensez aux autoroutes. Hein. Vous continuez à payer des autoroutes qui sont amorties depuis...
Non, mais il y aura un coût.
Ah bah oui. Il y aura un coût, il y aura des appels d'offres, il y aura des comptes publics. Regardez Autolib, hein, je veux dire. Non mais, oui, et on n'a pas sorti le bilan des Vélostar, on pourrait. Hein.
Alors, une remarque qui renverse le truc sur le coût zéro, là, ou le prix zéro. Encore beaucoup d'argent public dans le domaine des transports, enfin d'argent public investi dans le domaine des transports. Est-ce que l'avènement du véhicule autonome nous promet des économies en prévision ?
S'il n'y a pas d'économie, ça ne se fera pas. Enfin, s'il n'y a pas d'économie pour l'utilisateur, il continuera à utiliser sa voiture. C'est-à-dire, et il faudra que ce soit, encore une fois, des économies plutôt facteur 10 que 20 ou 30%. Enfin, combien de fois vous lisez que c'est moins cher d'utiliser le bus que la voiture ? Non, parce qu'on n'a pas intégré tous les coûts pour la personne qui sont des... Il y a des coûts qui sont surpondérés. Hein, je veux dire, l'homo economicus n'existe pas. Hein, je vous renvoie sur la psychologie comportementale, Kahneman et tout. Moi, quand je retourne ça, on utilisera un mode de transport nouveau avec des contraintes qui sont de ne plus conduire, de ne plus maîtriser, pour moi, que s'il y a vraiment une baisse radicale. Et connaissant un peu les ozos qu'on a dans le monde du numérique, la baisse radicale, ils seront très tentés de le mettre à zéro, parce que c'est tellement plus simple à gérer si c'est gratuit que si c'est payant, c'est tout. En cherchant bien, on devrait pouvoir faire payer les piétons. Hein. Je veux dire, il y a sûrement des économistes qui vont vous dire que le piéton, ça coûte, etc. Et tout. On a trouvé que c'était quand même beaucoup plus simple de dire que les piétons ne payaient pas. Donc je le vois comme ça, c'est-à-dire on va être sur une logique, encore une fois, de... À un moment donné, quelqu'un aura payé quelque part, mais au quotidien, en fait, on n'aura plus besoin d'aller chercher une carte Corrigo pour charger un statut qui permettra d'avoir accès aux tarifs. Non. Je ne vois pas ce scénario.
Et alors, dans le genre, il y a l'idée d'un scénario terroriste. Il n'y a plus de voiture autonome un jour. Quelque part, quelqu'un décide de bloquer tous les véhicules, ou pire, organise un gigantesque crack.
Il y a un artiste qui a fait ça. Il y a un activiste qui a fait ça. Vous pouvez le faire aujourd'hui. On peut le faire cet après-midi. On peut faire un jeu. On va acheter 50 valises. On va prendre ces valises-là. et on va les mettre à 50 endroits différents de la ville. Vous allez voir, la ville s'arrête. La ville s'arrête. Vous prenez ces 50 valises, vous les mettez à 50 endroits différents de la ville, bien en évidence, vous attendez, vous laissez reposer, comme on dit en cuisine, vous verrez, la ville s'arrête. C'est d'ailleurs... Bonjour. Mais oui, miaou. Oui, donc, évidemment, dans la voiture autonome, c'est la voiture connectée, en fait. Tout ce qui est connecté, en fait, est à câble. C'est-à-dire qu'on peut récupérer le signal. Et les spécialistes de ce genre de jeu, ils me disent que la voiture est vraiment en grand risque, justement parce qu'elle est fermée. C'est-à-dire, comme c'est une technologie totalement fermée, les constructeurs disent on ferme volontairement pour que personne ne puisse rentrer, mais en réalité, elle est connectée quand même. Encore une fois, quand vous tournez le volant, c'est plus vous qui tournez le volant de votre voiture. Quand vous freinez, c'est plus vous qui freinez. Et donc, du coup, elle est en risque. Là, je laisse les débats sur la cybersécurité. Mais oui, il y a un danger. Et évidemment, la perspective de pouvoir prendre 5 camions et de les balancer dans la foule, elle est possible. Encore une fois, elle est déjà possible aujourd'hui. Il suffit de trouver, de manipuler 5 tarés et c'est faisable. Donc, c'est un risque à prendre. Pour moi, c'est pas un risque de 2030, c'est un risque d'aujourd'hui. C'est déjà faisable aujourd'hui.
J'en profite quand même sur la question de l'open source. C'est hyper important. Quand c'est ouvert, c'est quand même moins un câble. Et comme on est quand même sur une thématique sur la santé, les dispositifs médicaux implantables sont extrêmement à câble aujourd'hui. Et ceux qui veulent aller un peu plus loin, je vous conseille une conférence d'une des avocates de Debian qui développe le libre, qui explique qu'elle a dû se faire poser un pacemaker et qu'elle cherche à savoir sous quoi ça tourne. Et en fait, elle fait tout le tour des constructeurs, je vous la fais en bref, mais pour découvrir que c'est complètement une boîte noire et c'est complètement à câble, de fait. Et que le jour où, justement, on fera de l'open source et on poussera, on pourra rendre les choses un peu plus sûres. Mais là aussi, on peut imaginer, il y a des dystopies assez étonnantes, surtout qu'on est de plus en plus connectés médicalement.
Sur la problématique de l'assurance, à partir du moment où il y a un programme, pensez à un programme qui a agi, il faudra pouvoir remonter ce programme. C'est-à-dire, à un moment donné, il faudra être capable de dire dans un accident, est-ce que c'est lié au matériel qui a été défectueux? Est-ce que c'est lié à l'infrastructure? Est-ce que c'est lié au programme? Donc, de toute façon, on va avoir un sujet d'ouverture. Je ne sais pas s'il y a sûrement quelque chose entre l'open source, le commun et le système totalement fermé, hein, mais il y aura besoin d'avoir des accès et il y aura un sujet là-dessus.
On va s'arrêter, mais il y a une question qui est revenue deux fois, donc je vais la poser. Pourquoi 15 marches?
Ah, bien toujours. 15 mars, c'est mon trajet domicile-travail, en fait. C'est parce que quand j'ai créé ma boîte, je l'ai créée en haut de mon escalier et j'ai eu une idée dans l'escalier de nom, parce que je galérais pour trouver des noms. Tous les noms sont déposés, en fait. Et du coup, j'ai compté le nombre de marches de mon escalier et j'ai dit, tiens, à 15 marches, ça pourrait être un nom. Et donc, c'est resté. Maintenant, je ne suis plus dans mon grenier, mais le nom est resté. Voilà. Et c'est resté parce qu'on me posait la question. Et du coup, généralement, quand on pose la question, c'est qu'on mémorise et chercher quelque chose qui se mémorise. Voilà. Il n'y a pas d'autres explications. Merci à vous en tout cas.